être.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport, votre rendez-vous dédié à l'actualité sportive où nous faisons régulièrement la part belle à un invité et ce mois-ci c'est Hugo qui est à la manœuvre. On retrouvera donc Fred un petit peu plus tard pour la météo sportive, ce sera son tour ce mois-ci. Aujourd'hui, Hugo nous propose une rencontre avec Thibaut Leplat. Si vous êtes un habitué des émissions de foot sur RMC par exemple, ce nom doit vous dire quelque chose dans le paysage médiatique sportif français. C'est une personnalité à part, il est prof de philo et passionné de foot. C'est un petit peu le chaînon manquant entre la passion du terrain et la raison qui nous manque parfois lorsqu'il s'agit de parler foot. On retrouve tout de suite Hugo et son invité.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion. Vous écoutez le LEM Sport comme chaque mois. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie d'un homme aux facettes multiples, un homme très polyvalent, un philosophe, un écrivain spécialisé dans le sport, en la personne de Thibaut Leplat. Bonjour à vous Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Évasion.
Merci, avec grand plaisir.
Thibaut, vous êtes un homme aux facettes multiples, comme je le disais en introduction. Alors, pour être un peu trivial, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas du tout, quel est le parcours d'un professeur de philosophie qui a écrit des ouvrages sur Pep Guardiola ou José Mourinho ?
C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est parce que je m'intéressais au football, j'ai toujours été un passionné, j'ai joué longtemps, que je me suis intéressé ensuite à la philo. C'est la philo, en fait, que je suis venu à la philo pour essayer de comprendre un peu mieux ce que c'était que le football, ce qui se passait. J'avais toujours eu l'intuition. J'avais un naturel de gardien de but, donc j'ai toujours été un peu observateur du jeu. Et c'est la philo qui m'a permis d'en comprendre un peu plus la profondeur.
Quelle a été la bascule dans votre parcours philosophique, mais aussi professionnel ou personnel, pour que le football prenne une place si importante?
Donc j'avais vraiment eu deux pôles toujours, moi, dans mon parcours, qui ont été d'un côté le football, le sport, et en particulier le football, soit que je pratiquais, soit me passionnais, et de l'autre côté, l'écrit, que ce soit la littérature et la philosophie. La philo et la littérature, parce que ce sont mes études, j'ai fait un parcours littéraire, Sciences Po, et de l'autre côté le football parce que j'ai baigné dedans et parce qu'ensuite quand j'ai déménagé en Espagne, j'ai vécu 10 ans à Madrid, on peut pas parler de Madrid si on ne parle pas de football quoi. Donc je me suis retrouvé plongé là-dedans et jamais j'avais vraiment fait la connexion entre ces deux univers. Donc j'ai travaillé comme ça, j'ai été pigiste pendant longtemps en presse sportive, mais avec deux univers qui communiquaient pas trop chez moi, et ça s'est mis vraiment à résonner quand j'ai rencontré Jorge Valdano, qui est champion du monde 86, un immense joueur, camarade, ami intime de Maradona, et un personnage totalement atypique dans le monde du football, parce que lui, il a utilisé son temps libre, qu'il avait assez nombreux quand il était joueur, pour se cultiver et lire des bouquins. C'est un type qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit sur le football. Et c'est un vrai penseur du jeu et du penseur du football. Et ma rencontre avec lui, elle s'est faite suite à une interview. Et j'ai vraiment, à travers lui, compris qu'il était possible, en fait, d'allier les deux, l'intelligence et le football. Être capable de dire des choses profondes sans qu'elles soient condescendantes, et en même temps continuer à parler de jeu avec tout le respect qu'on pouvait en avoir. Donc, moi, je suis pas champion du monde de football, malheureusement, en tout cas par procuration seulement. Mais en revanche, c'est à partir de cette rencontre avec lui que j'ai orienté vraiment mon travail sur la recherche du sens dans le football. C'est comme ça que j'ai écrit sur Guardiola, Mourinho, ou par exemple dans les bouquins sur Guardiola et Mourinho, j'insiste beaucoup sur leur formation philosophique. Oui. Soit Mourinho parce qu'il a eu un de ses mentors qui était un prof de philo, Sergio, soit sur Guardiola qui n'a pas eu de prof de philo comme mentor, mais qui en revanche a une philosophie de jeu extrêmement développée et qui est entouré de gens qui pensent. Et donc dans les deux cas, il semblait que c'était une dimension du football qui n'était absolument pas abordée. Comment on pense le football ? Ces gens-là m'ont aidé vraiment à articuler les deux, quoi.
Justement, est-ce que ce passage en Espagne, dans ce que vous en retenez, la différence majeure qu'on peut situer avec la France, est-ce que ce ne serait pas l'idée qu'en Espagne, on est parvenu à faire un lien entre le football et d'autres disciplines, et plus généralement à intellectualiser ? Et est-ce que ce n'est pas ce qui manque à la France et peut-être ce pourquoi aussi vous n'aviez pas fait ces passerelles-là auparavant dans votre vie.
Oui, avec toujours un peu ce paradoxe qu'en France, qui est le pays de la littérature, des philosophes, des grands textes, des grands penseurs, on a autant de mal et que ce soit aussi mal vu de penser le football. On est un pays qui pense la cuisine, qui pense la littérature, qui pense n'importe quelle chose du quotidien, mais qui n'arrive pas à penser le sport. Donc il s'y refuse. Ça, c'est vraiment un paradoxe de la culture française. Quant en Espagne, j'allais dire, c'est presque l'inverse. En Espagne, c'est pas un pays de philosophes, l'Espagne, c'est un pays de littérature, c'est un pays d'art, évidemment, de peinture. C'est pas un pays où il y a beaucoup de grosses traditions philosophiques. En revanche, il y a sur le football, une capacité à utiliser le football pour parler d'autre chose. Et c'est en cela qu'il devient philosophique, c'est-à-dire qu'il est chargé de sens. Et c'est là, en Espagne, avec l'ouverture après le franquisme et l'ouverture aux pays sud-américains, notamment l'Argentine, qui est peut-être la capitale quoi, du football intellectuel, et en même temps la tradition du journalisme espagnol, du journalisme de corrida notamment, ou la littérature espagnole, où vous avez énormément de romanciers qui s'intéressent au football, parce que c'est une partie essentielle de la culture espagnole. La conversation intellectuelle de football historique entre gens cultivés est assez courante en réalité. Alors il y a évidemment, on connaît beaucoup Marca et autres, qui sont des journaux plus classiques, qui sont pas vraiment des journaux intellectuels, comme on puisse dire. Il y a évidemment ce type d'approche-là, mais il y a aussi une grande diversité sur l'approche intellectuelle. Vous avez plusieurs revues qui s'intéressent au football de manière, disons, à sa juste hauteur. Quoi. Vous avez des gens, et Jorge Valdano est l'un d'entre eux, et c'est un peu la figure tutélaire de tout cet univers-là. Mais il y a d'autres types de Javier Marías, qui est un grand écrivain espagnol, qui est mort le mois dernier, un grand écrivain de football, qui a écrit beaucoup sur le football. Il y en a énormément. En fait. Et donc, ça s'est fait, pour moi, naturellement. Il suffit, je lui dis, quand je les ai vu faire ça, je me suis dit, je peux le faire. Ça, je sais le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré vraiment cette méthode-là, à partir des années 2010. Quoi. Et je suis tombé en plein pendant la période Mourinho versus Guardiola et des grands classicos Real Barça. Donc, pour moi, c'était idéal. Quoi.
Justement, on a compris donc qu'il y a une sorte de déclic en Espagne. S'en est suivi des activités multiples et diverses pour vous, avec les ouvrages dont on a parlé sur Pep Guardiola et José Mourinho. Désormais, vous intervenez aussi, par exemple, dans l'Afterfoot. Vous écrivez régulièrement sur le blog d'Eurosport. Moi, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à toutes ces activités-là, c'est au fond, quel est votre objectif? Comment vous définiriez votre rôle, qui est assez différent selon les endroits, finalement?
Pour prendre le mot de moi, je suis une sorte de spectateur engagé dans le football. Je suis à la fois dedans et dehors. C'est la position du penseur, quoi. C'est la position de celui qui essaye de donner du sens à ce qu'on est en train de faire. C'est de dire le sens de ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a des gens qui sont disposés à l'entendre, à l'écouter, puis d'autres qui le sont un peu moins. Mais c'est ça, la posture du... Comme un peu Raymond Aron, à qui on a beaucoup reproché de ne pas forcément rentrer en politique, tout en écrivant tout le temps sur elle. Bah moi c'est pareil quoi, j'ai passé 15 ans de ma vie à écrire sur le football, je continue à le faire avec toujours le même plaisir quoi, c'est ça qui est vertigineux. Donc même moi à chaque fois que je démarre un article, j'ai encore un truc à dire sur le football, encore un truc nouveau à écrire, à dire dessus. C'est ça qui est formidable quoi, c'est ça que moi j'adore dans ce métier là. Bon, j'avoue que c'est un métier que j'ai un peu inventé, parce que c'est un penseur du football, on peut pas dire que c'est quelque chose d'assez courant. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire comme ça, et c'est une sorte de méthode que j'essaie d'appliquer. Et donc, ça se fait dans l'after, je le fais dans l'after sur la version radio, je peux dire, où là, c'est la version plus courte, en dialogue, etc. Mais avec toujours cette idée d'essayer de donner du sens quoi, à ce qu'on est en train de faire, et pas simplement juste subir l'actualité ou subir... Des événements sportifs les uns derrière les autres sans hiérarchisation, sans être capable de les mettre en perspective et sans essayer de voir ce qui dans ces événements-là nous aide à penser notre vie d'humain du 21e siècle. C'est une sorte d'anthropologie quoi que j'essaie de faire. Donc ça je vais faire à la radio, je vais faire à l'aérosport et donc selon le média et selon le support, je m'adapte, mais le fond est toujours le même.
Oui, bien sûr. Sans transition, ou presque, si j'ose dire, quel regard le penseur que vous êtes, il porte sur l'ensemble des choses qui peuvent secouer le monde du football actuellement? On pense par exemple aux différents scandales qui éclatent au sujet de la Fédération française de football. Est-ce que selon vous, il est de plus en plus complexe de pouvoir aimer ce sport sereinement à l'heure actuelle si on accorde une place très importante à la morale Ou alors, est-ce que c'est un sentiment qui pourrait être plutôt lié à une époque ?
Disons qu'on a hâte que les matchs commencent. Ce qui est paradoxal avec le football, plus on avance, plus il se développe, plus on se demande comment on fait pour encore aimer le football. En dépit de tout ce qu'on sait sur les footballeurs, sur ce qui se passe, les conditions d'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, ce qui se passe à la Fédération Française de Football, les affaires de mœurs, l'incurie des gouvernants, l'aspect extrêmement désagréable que peut donner à première vue la vie d'un footballeur, l'aspect complètement invraisemblable en fait des scandales qui peuvent se répéter de la vie des footballeurs ou des agents ou des autres, tout cet univers là que moi, enfin, sincèrement, moi je le déteste. Vraiment, c'est pas du tout ça qui m'intéresse dans le football, et pourtant malgré cela on continue à s'émerveiller devant un match de football, quoi. On continue à s'émerveiller devant un dribble, devant un grand joueur, peu importe combien il est payé, quoi. Peu importe ce qu'on peut penser de lui. Moi, par exemple, Neymar est un exemple assez caractéristique, quoi. À savoir qu'un tel joueur, puisse défendre Bolsonaro activement, est loin d'être un modèle de vertu, est loin d'être un modèle de camaraderie. C'est malgré tout un joueur extraordinaire et qui est capable de donner des ballons extraordinaires et de réaliser des gestes que seul lui peut réaliser et que ça donne envie de regarder le match juste pour le voir lui, en dépit de tout ce qu'on sait sur lui. Et j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle La magie du football. C'est comment le football, c'est le moment où notre intelligence joue à se tromper avec elle. Un peu comme on regarde des spectacles de magie, vous savez, on pense que il y a toujours un moment de doute, on se dit non, mais il a pas de pouvoir de magie, c'est pas possible. Vous savez, quand vous regardez, vous dites bon, cette fois-ci je vais l'avoir, ah, ben non, il m'a encore eu. Et il y a un truc, on cherche le truc. C'est un peu ça le football. On cherche sans arrêt le truc, et à chaque fois ça fonctionne.
Dans le sens de ce que vous venez d'évoquer précisément, on peut sans doute penser que le mondial qatari qui approche, il marque un tournant probablement. Le mois dernier, puisqu'on est déjà en novembre, vous avez signé une tribune dans Libération dans laquelle vous expliquez entre autres que un boycott ce serait très complexe à mettre en œuvre pour n'importe quel fan de football. Pour les auditeurs qui n'ont pas lu cette excellente tribune, est-ce que vous pouvez un peu étayer votre propos ?
Oui, je voulais expliquer en fait quelle était la difficulté pour le fan de football à penser le boycott et à s'y résoudre. Hormis toutes les choses qu'on a pu dire jusqu'à présent, il y avait une chose qui me semblait un peu absente des débats, qui était le rapport à l'enfance. Et qui fait que le football, et en particulier la Coupe du Monde, c'est une résurrection de l'enfance. C'est quelque chose qui est lié à une croyance profonde et qui réveille en réalité l'enfant qui est devant dans chaque spectateur de football. Quand on regarde un match de football, on a tous le même âge. C'est ça qui est extraordinaire. Vous pouvez avoir 70 ans ou 8 ans, vous pouvez parler d'égal à égal pendant un match de football. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a tous 7 ans quand on regarde un match de football, on a tous cet attrait, cette croyance, cette naïveté presque à l'égard du jeu, qui devient coupable avec les années, mais qui ressuscite à chaque match. Et ça, c'est une phrase de je l'ai emprunté à Javier Marías. Il dit le football, c'est la récupération hebdomadaire de l'enfance. C'est ce moment où on joue à autre chose, on joue à être quelqu'un d'autre, on joue à faire quelque chose d'autre. Et puis après, une fois que le coup de sifflet final résonne, on retourne chacun chez soi et notre vie normale peut reprendre. Donc il y a un aspect liturgique, mais qui est une liturgie de l'enfance. Vraiment qui, c'est pour ça que ça rend la question du boycott aussi profonde, aussi aiguë, c'est-à-dire qu'il s'agit de renoncer à son enfance, et on renonce pas si facilement à son enfance.
Ce rapport à l'enfance que vous évoquez là, dans la tribune et ici même sur Radio Évasion, est-ce qu'au fond ça traduit pas une forme d'irrationalité la plus totale chez tous les fans de football, dans un sens positif comme dans un sens négatif de fait ?
Oui, il y a une suspension d'incrédulité, on dirait en littérature. C'est-à-dire on suspend une sorte de notre jugement, notre manière de douter. On suspend notre doute quand on regarde un match. Mais je dis bien pendant l'exacte durée d'un match. Avant, on la suspend pas. Avant, c'est ce qui se passe. On apprend ce qui se passe au Qatar, on apprend ce qui se passe sur la Coupe du Monde, on apprend les conditions dans lesquelles sont organisées ou dans les conditions dans lesquelles sont attribuées les Coupes du Monde. On le déplore, on le regrette, etc. Après le match, on continuera à le regretter, mais pendant le match, on va le regarder, le match. parce qu'on a envie de savoir, est-ce que Neymar est capable de refaire ce qu'il a fait cette saison? Est-ce que l'histoire reprend, quoi? L'héroïsme reprend, l'héroïsme enfantin reprend. Ce sont des héros d'enfance, quoi, qu'on a envie de voir en action. Et qu'en réalité, il faut bien faire la distinction entre ce qu'est le football, le jeu de football, son universalité, son aspect fascinant, son rapport à l'enfance, de ce qu'est le monde du football, qui est encore autre chose. Là, c'est comme la même différence qu'il y a entre l'art et le marché de l'art, quoi. Le marché de l'art peut être ce qu'il est, ça n'empêchera pas l'art d'exister, et ça ne nous empêchera pas d'admirer des chefs-d'œuvre. C'est pareil pour le football. Il y a le football et il y a le marché du football. Le marché du football, c'est une réalité qui est assez déplaisante. Le football en lui-même, le jeu, reste pour moi fascinant et intact.
Cette Coupe du Monde, pour y revenir plus précisément, on l'évoque aujourd'hui comme historique, dans le mauvais sens du terme, pour tout ce qu'elle a généré et ce qu'elle générera peut-être. Mais est-ce que selon vous, sans vous demander de faire le devin, entre guillemets, elle gardera une place singulière dans l'histoire?
Elle peut marquer un jalon dans les sociétés européennes. Pour les sociétés européennes, parce qu'elles vont aiguiser un problème qui va être récurrent maintenant, c'est les différentes conceptions du monde qui s'affrontent. On voit bien que sur la question du Qatar, aujourd'hui, une interview du ministre des Affaires étrangères du Qatari a été publiée dans Le Monde et très intéressante à ce sujet-là. Il ne comprend même pas les reproches qui leur sont adressés. Ils ne comprennent pas qu'on puisse se préoccuper à ce point de sujets pour lesquels qui considèrent comme d'être accessoires ou en tout cas moins importants que l'idée que enfin un petit pays arabe pouvait accueillir une Coupe du Monde, ce même pays était capable de lutter contre les forces de la nature précisément pour créer sortir du sable 8 stades. En réalité, on se rend compte qu'on parle presque plus la même langue. Et ce qui va arriver sans doute maintenant, sans vouloir faire le prophète, c'est qu'on se rend compte que nos Coupes du Monde, qui étaient jusqu'à présent, si je puis dire, assez occidentales-centrées, petit à petit, elles s'universalisent. Et l'universel, il n'est pas du tout uniforme, quoi. On ne pense pas du tout la même chose. On est tous confrontés à une sorte de, je n'ose pas dire de choc culturel, mais en tout cas de choc des mondes entre des univers qui semblent totalement opposés les uns aux autres, mais qui, à l'occasion d'un événement comme le mondial, un événement pacifique, il n'y a pas d'événement aussi grand et en même temps aussi pacifique que le mondial, se confrontent, se rencontrent pour éventuellement célébrer le jeu ensemble. Donc ça me semble pour moi un aspect très important. Je ne crois pas du tout qu'il faille le déplorer en réalité. Je pense que c'est la réalité du monde tel dans lequel on vit et que le football n'est qu'à ce titre une forme de miroir grossissant des contradictions et des oppositions qu'il peut y avoir sur certains sujets, à commencer par la question du réchauffement climatique ou des droits humains. On voit bien qu'il y a des points d'entente et où il n'y a pas d'entente possible, quoi, où ça devient très compliqué. Mais on ne peut pas organiser une Coupe du Monde tout seul. Sinon, on fait la Coupe du Benelux ou voilà. Donc, à partir du moment où on décide de participer à un événement mondial, eh bien, forcément, il devient de plus en plus difficile d'imposer sa conception du monde au reste du monde.
Après avoir parlé de votre personnalité, après avoir parlé de cette Coupe du Monde au Qatar qui approche, j'aimerais qu'on se focalise un peu plus sur le rectangle vert, si vous me permettez l'expression. Parfois, pour ne pas dire souvent, les acteurs du football, dans leur grande diversité, ils dissocient le fait de bien jouer et le fait de gagner. Quel est votre point de vue de philosophe à ce sujet?
Disons qu'il faut se demander sur quoi repose ce type de préjugé. Sur quoi repose l'idée qu'il faille séparer le processus du résultat, il faille séparer le voyage de la destination. C'est une question d'évaluation. Qui pense qu'il faut se poser ce type de question-là? Qui se pose ce type de question-là? Celui qui précisément a renoncé à jouer. Celui qui considère que bien jouer ou ça reste une croyance d'esthète quand le résultat est le seul qui compte. En réalité, c'est pas une question que se posent des gens qui prônent du jeu agréable ou du jeu esthétique. Cruyff se pose pas ce type de question-là. Guardiola se pose pas ce type de question-là. Des gens qui posent des questions comme ça, ce sont Mourinho, ce sont Elenio Herrera, ce sont des gens qui ont séparé en fait le processus du résultat et qui ont fait une lecture du football exclusivement résultatiste. Donc je crois que déjà la question elle est elle-même empreinte d'une idéologie qui me semble assez néfaste en réalité, parce que ça n'a pas grand sens de séparer le procédé du résultat, parce que quand bien même on prendrait de jouer mal, je puis dire. Malgré tout, ce qu'on poursuit, c'est de jouer bien mal. C'est-à-dire de mal bien jouer, si je puis dire. Et comment on évalue le mal bien joué ou le bien mal joué, si je puis dire, au regard du résultat qui est fourni. Je vous donne un exemple très simple. On peut être le pire sorcier du monde, on peut être le pire dictateur du monde. Ça, c'est Aristote, hein, qui veut dire que ça s'appelle le démonisme. Ce qu'on recherche, malgré tout, c'est le bien. Et le bien, selon sa propre conception du bien. Mais le bien en tant que je vais réussir mon action au regard des critères que moi-même je me suis imposé. Donc, mal jouer, ça veut rien dire, en fait. C'est Simeone, il dit pas qu'il faut mal jouer. Il dit qu'il faut jouer d'une certaine manière dans laquelle il faut prendre le moins de risques possible. Voilà. Mais il dit pas qu'il faut mal jouer. Personne dit qu'il faut mal jouer, en réalité. Sauf les gens qui se posent cette question-là de manière rhétorique pour éventuellement stigmatiser une certaine manière d'appréhender le football comme aussi un rapport esthétique. Quoi. Donc, à la question faut-il gagner ou bien jouer, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune bonne réponse à une mauvaise question. Je suis désolé, hein, que c'est votre question. Oh. Mais c'est une question qui revient souvent, évidemment, qui revient souvent, mais qu'il faut pas être naïf à l'égard de ce type d'interrogation là. En réalité, bien jouer, c'est déjà gagné. Et bien jouer, c'est gagner deux fois, si je puis dire. Donc je crois pas du tout que ce soit une question qui puisse être posée dans ce sens-là. Et si on la pose comme ça, on donne déjà la réponse.
Justement, Thibaut, une dernière question parce que le temps nous est compté. Je voudrais évoquer, parce que notre émission a avant tout pour but de donner un aspect local aux choses aussi, évoquer le FC Lorient, bien sûr. Vous l'avez dit en filigrane, vous connaissez bien Régis Lebris, le nouveau coach du FC Lorient. Comment est-ce que vous évaluez ce début de saison assez fantastique et jusqu'où ils peuvent aller cette saison, selon vous, les Lorientais?
Je pense qu'on découvre à travers la figure de Régis Lebris une figure qui était assez absente depuis quelques années, en tout cas en France, de l'entraîneur chercheur. Quelqu'un qui est en perpétuel... Recherche de progrès individuel, je veux dire de lui par rapport à lui-même. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de limite, en réalité, à ce moment-là, pour parler de manière générale. Pour parler de manière concrète, pour moi, le FC Lorient peut parfaitement être européen à la fin de saison. Et la question est de savoir combien de temps va rester Régis Lebris au FC Lorient, parce que je crois qu'il y a un FC Lorient avec lui et un FC Lorient sans lui. Il était au club depuis plus de 10 ans déjà en tant que directeur du centre de formation, directeur de la méthodologie du FC Lorient. Donc c'est déjà quelqu'un qui était dans la maison depuis longtemps et qui a déjà donné beaucoup et qui explique aussi beaucoup les bons résultats à long terme et les bonnes ventes, la bonne santé économique du club. Donc c'est un élément essentiel hein, du FC Lorient, comme l'a été à un moment qui est en cours sur un autre registre, mais le brief est vraiment son héritier sur ce point-là. Donc je pense qu'il faut... Tout est possible avec cette équipe. Je pense que la marge va être un peu haute quand même pour la Ligue des Champions. Parce que l'effectif est quand même assez réduit. Et puis, quand on regarde tous les indicateurs, il surperforme dans quasiment tous les domaines. Mais je pense que c'est plutôt un signe de la qualité de l'entraîneur qu'un signe de réussite ou autre chose. Donc, moi, je leur souhaite de garder le Brice le plus longtemps possible. Mais connaissant Régis, je crois que le progrès individuel et collectif est le maître mot de l'ensemble du club. Donc là-dessus, je ne me fais aucun souci sur leur capacité à maintenir le rythme, leur capacité à continuer à produire de telles choses.
Eh bien, on suivra ça avec grand intérêt, tout comme vos ouvrages, tout comme vos écrits, tout comme vos interventions dans l'afterfoot et autres. Merci beaucoup à vous, Thibaut. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger sur le football, même si, évidemment, on aimerait que ce soit beaucoup plus long, parce que quand on vous entend parler, on aimerait que ça dure des heures, honnêtement. Merci à vous, Thibaut.
C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.
Merci Hugo, et tout de suite il est l'heure de retrouver Fred en studio, c'est toi qui t'y colle à la météo sportive du mois. On va rester dans le thème du désert, le golfe persique, mais pas que.
Aujourd'hui ce ne sera pas la météo d'Hugo, mais la météo de Fredo, puisque Hugo était occupé avec notre invité, mais ça on va pas en faire un plat. Il m'a donc fallu m'adapter et trouver quelque chose à raconter dans cette chronique, et comme on le sait tous, quand on n'a rien à dire, on parle bien entendu du temps et de la météo. Et pour ce nouveau numéro des Évadés du Sport, c'est tout d'abord une météo bretonne chaude et tempétueuse qui fait surtout le bonheur de nos auditeurs et cueilleurs de champignons en ce début d'automne. Et puis de toute façon, ça dépend à qui vous demandez, temps pourri pour certains et pas si mal pour les autres. Et en Bretagne, Il n'y a pas que les cyclistes et les parapentistes qui sont embêtés actuellement. La tempête a aussi réussi à retarder le départ de la route du Rhum, course au large au départ de Saint-Malo. On ne parlera pas non plus des défaites de Lorient et Brest qui ne sont qu'anecdotiques au regard de notre météo nationale. Grand ciel bleu sur le tennis français après la victoire cette nuit de Caroline Garcia au Masters Tennis de féminin, un bel exploit que nous voulions souligner ce matin. En revanche, à Paris, Marseille ainsi que dans les grandes capitales européennes, le dur climat de novembre fatigue les organismes de nos chers sportifs chez qui de nombreux blessés sont à déplorer, au plus grand dam de nos équipes nationales d'ailleurs. Et c'est le stress et l'incertitude qui prédominent. Benzema sera-t-il guéri pour la Coupe du Monde ? Horreur, insoutenable suspense, une météo angoissée, donc, et renforcée par l'actualité du moment. Et oui, on ne peut pas y couper, c'est le Mondial de foot au Qatar, la plus grande compétition sportive mondiale qui va démarrer le 20 novembre. Transition toute trouvée pour la météo du Golfe Persique. Et là, accrochez-vous, ça va être radicalement différent. 45 degrés annoncés et des stades entièrement climatisés qui ont surgi du désert. Des stades d'ailleurs construits par des salariés esclaves. 6500 morts, mais ça, faut pas trop en parler. Météo caniculaire sur une terre qui se réchauffe. Et là, une idée de génie des instances internationales de football et de nos leaders politiques français d'un passé pas si lointain. Faire du foot en plein désert, dans des stades entièrement climatisés. Joli pied de nez aux problématiques environnementales. Et le tout avec un budget climatisation de 35 milliards de dollars. Bon, clairement, on joue pas dans la même cour. Droits de l'homme bafoués, environnement négligé, corruption. La liste est longue des griefs que l'on pourrait faire à ce petit pays du Golfe, en quête de reconnaissance et de légitimité sur notre chère planète. Mais sommes-nous pour autant tout exemplaires ? Mais heureusement, les valeurs du sport et de l'universalité seront représentées. Choc des cultures et des civilisations, des mondes qui ne se comprennent pas. Et si cette compétition dépassait les pays et n'était pas simplement une confrontation entre deux conceptions bien différentes du monde ? La partie vaut-elle le coup d'être jouée ou boycottée ? En tout cas, pour nous, les évadés du sport, associons tout de même à ne pas faire n'importe quoi dans les rues de Doha, au risque de finir en prison. Un comble pour des évadés.
Ah oui, parce qu'on va à Doha ?
Ouais, apparemment, on a des billets, ouais.
J'ai pas de passeport, on fait comment ?
Bon, on improvise.
Bon, je regarderai à la télé comme tout le monde. Bah, merci beaucoup Fred pour cette météo du sport, cette météo du qui remplace Hugo au pied levé. Bien joué.
Voilà. Merci beaucoup.
Et on se donne rendez-vous donc dans un mois pour une prochaine émission du LEM Sport sur Radio Évasion. Et tout de suite, la deuxième partie du LEM.
LEM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure de la deuxième partie de l'EM qui nous permet de rejoindre les jeunes du service Info Jeunesse de Plougastel.